Deutsche Welle Magazine Santé.
C'est une malformation de la colonne vertébrale qui apparaît tôt chez l'enfant, donc lors de la quatrième semaine de la grossesse. Le facteur le plus incriminé, c'est le manque d'acide folique. Mais on dit aussi que c'est une malformation qui est liée à la génétique et on incrimine certains médicaments aussi qui, chez certains parents, peut causer la malformation.
Colonne vertébrale, malformation, nouveau-né, cette semaine dans le magazine Santé. Nous nous intéressons au spina bifida. Avec le docteur Aurélie Chambo que vous venez d'entendre, nous parlerons des causes et conséquences de cette pathologie et aussi de sa prise en charge. Mais avant, direction le Nigeria où l'on se mobilise contre le virus de la variole du singe. Carole Assignon au micro, vous écoutez le magazine Santé. Après la découverte de dizaines de cas suspects de variole du singe au Nigeria, les autorités sanitaires ont réagi en multipliant les campagnes de sensibilisation. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ce virus peut provoquer une maladie parfois mortelle chez l'homme, mais elle est en général beaucoup moins grave que la variole humaine à laquelle elle ressemble et qui a été éradiquée. Quoi qu'il en soit, au Nigeria, la vigilance reste le mot d'ordre. Les précisions d'Ishaka Adegboye.
Depuis l'annonce de l'apparition du virus de la variole du singe, les établissements scolaires ont redoublé de vigilance. Victoria Akali est fondatrice d'école. Elle impose un contrôle sanitaire strict à ses élèves.
Nous nous sommes réunis d'urgence avec tous les enseignants et avons décidé que tout enfant ayant des boutons sur le corps doit être signalé au plus vite. Nous nous sommes aussi procuré un désinfectant pour toute personne étrangère à l'école.
Comme en témoigne cette bande annonce du ministère fédéral de la Santé, les campagnes de sensibilisation vont bon train également. Des campagnes de sensibilisation qui seront délocalisées dans les zones rurales, selon le docteur Bella Edou du ministère de la Santé de l'État de Cross River.
Le plus important pour nous en ce moment est que tout notre personnel se rende dans les zones rurales pour sensibiliser la population sur l'importance de se laver les mains avec du savon ou de la cendre, éviter de consommer de la viande qui n'a pas été bien préparée, éviter d'être en contact avec les animaux morts, car cela peut aussi être à l'origine de la transmission de la maladie. Éviter aussi d'être en contact avec une personne infectée, même son éternuement ou le fait de serrer la main à une personne infectée entraîne la contamination.
Une population informée, des agents de santé formés, mais concrètement, comment se comporte le virus de la variole du singe qui suscite tant d'inquiétudes, docteur?
La variole du singe est une maladie virale qui se manifeste chez les singes. Et la plupart du temps, ces maladies ne présentent pas de signes ou de symptômes chez ces animaux sauvages. Chez l'homme, les boutons sont souvent plus gros que ceux de la variole, mais pas petits comme pour la varicelle. On les remarque premièrement dans la paume, ensuite sur le pied et enfin sur tout le corps.
Les personnes en contact direct avec les animaux sont toutefois les plus vulnérables au virus. Le docteur Chikwe Ikwazu du Centre national de contrôle épidémiologique.
La période d'augmentation des risques se situe au moment de l'abattage. Ceux qui abattent les animaux pour les consommer. Mais consommer de la viande n'est pas véritablement un problème. Si vous consommez de la viande bien préparée ou grillée, il n'y a pas de danger. Cependant, le problème se pose avec les personnes qui touchent les animaux. En un mot, ceux qui sont en contact avec ces animaux qui n'utilisent pas les équipements de protection et ne se lavent pas correctement les mains après l'abattage. Une fois que le virus est introduit au sein de la population, il y a risque de transmission d'être humain à être humain.
Le virus de la variole du singe n'est pas mortel. Cela n'a pas empêché toutefois un patient atteint de se suicider dans l'état de Bayelsa. Ishika Deboye à Abuja pour la Deutsche Welle.
Il se définit par l'absence de fermeture de la colonne vertébrale dans laquelle se trouve la moelle épinière. Si la prévention de cette malformation repose sur la prise d'acide folique avant et au début de la grossesse, certaines des causes du spina bifida restent encore inconnues. C'est ce que nous explique le docteur Aurélie Chambaud de l'ONG Spina Bifida Action Belgo-Africa.
Parmi les causes les plus citées, ce sont les trois, donc la carence en acide folique ou les causes génétiques ou la prise de certains médicaments par la mère lors de la grossesse. Mais les chercheurs disent que ces causes interagissent avec d'autres causes qui demeurent encore inconnues. On suspecte aussi le stress. D'après une étude qui est encore en cours au Congo avec le docteur Koutolo, généralement, ce sont les premiers-nés des femmes qui sont dans des situations de stress. Les symptômes se confondent avec les complications de la maladie qui apparaissent aussitôt. Donc, quand l'enfant est né, il y a ces symptômes-là. Il y a la paralysie des membres inférieurs, l'incontinence urinaire et fécale. La maladie en elle-même se manifeste par une hernie au niveau de la colonne vertébrale, mais la hernie dépend au fait des sortes de la maladie. Dans les formes simples, il y a juste un petit gonflement au niveau du dos. Il n'y a pas de plaie, il n'y a pas de hernie, juste une petite tuméfaction au niveau de la colonne vertébrale ou une touffe des cheveux au niveau de la colonne vertébrale. Ça, ce sont des formes moins graves. Mais la maladie, dans sa forme grave, il y a vraiment une fente au niveau de la colonne vertébrale, d'où le nom spina bifida, donc colonne vertébrale fendue en deux. Et là, il y a extériorisation de la moelle et des méninges. Et on peut avoir aussi comme complication une hydrocéphalie. Ça veut dire une accumulation du liquide céphalo-rachidien au niveau du crâne. Et donc, on a une tête qui gonfle puisque l'enfant a encore ses articulations non serrées. Donc, la tête gonfle.
Et dans ce cas, comment se fait la prise en charge? Est-ce qu'il y a une chance de sauver l'enfant?
Dans les pays très développés, on fait une intervention in utero, donc on opère l'enfant pendant qu'il n'est pas encore né, puisque plus tôt on opère, plus on a des chances de sauver ou de limiter les complications de la maladie. À la naissance, généralement, la maladie s'est déjà installée, les complications avec. Donc on peut faire une chirurgie pour refermer la fente, remettre les méninges en place. On fait aussi une chirurgie selon les symptômes que présente l'enfant. S'il y a une hydrocéphalie, on peut faire un drainage pour recadrer le liquide céphalo-rachidien. Généralement, les symptômes comme l'incontinence urinaire, comme la paralysie, on ne sait pas les récupérer puisque là, ce sont les nerfs. Quand ils se sont installés, les enfants restent à vie sur un fauteuil roulant. Donc, la récupération dépend de quand est-ce qu'on a opéré l'enfant et aussi de l'installation des complications.
Et vous parliez tout à l'heure de ce qui se fait dans les pays avancés, dans les pays développés. En ce qui concerne les pays en voie de développement, comment cela se passe?
Dans les pays en voie de développement, généralement, en tout cas, on ne fait pas les interventions in utero. Donc, on opère l'enfant quand il naît. D'abord, le diagnostic peut se faire déjà tôt si les mamans sont avisées. Quand elles viennent en consultation prénatale, on peut déjà, par une simple échographie, voir qu'il y a la maladie ou par une amniocentèse, donc par l'examination du liquide amniotique. On peut confirmer déjà le diagnostic.
À quelle étape de la grossesse on peut déjà détecter cette pathologie?
C'est une pathologie qui apparaît tôt à la quatrième semaine, donc après la quatrième semaine, cinquième, sixième semaine déjà. Mais comme l'enfant ne s'est pas encore bien formé, il faut attendre que la grossesse avance un peu pour faire une échographie qui montre vraiment une hernie de la colonne vertébrale. Si on est avisé et que peut-être on sait qu'il y a des antécédents chez les parents, on peut déjà faire une ponction du liquide amniotique et voir ça un peu plus tôt.
Il y a aussi une question au sein de certaines communautés de discrimination qui survient concernant des enfants présentant des formes de spina bifida. Comment les familles peuvent être soutenues ou comment réagir face à cela?
C'est un sérieux problème si nous travaillons en République démocratique du Congo. Il y a le côté des croyances qui interviennent et les enfants sont considérés comme des enfants sorciers. Donc du coup, il y a un côté psychologique sur lequel il faut vraiment travailler Et donc, nous avons choisi de travailler un peu plus sur la sensibilisation, essayer de dire à ces personnes que ce n'est pas de la sorcellerie, c'est une maladie qui existe et ça ne dépend pas de la mère. Essayer de faire comprendre que ces enfants qui sont nés ne sont pas des sorciers, ce sont des enfants comme tous les enfants qui sont nés avec une pathologie et qui peuvent être suivis.
Pour en revenir à la maladie même, concrètement, comment l'éviter?
Ce qui est demandé, normalement, c'est que quand une femme planifie d'avoir un enfant, 2 mois avant la conception de l'enfant, il faudrait déjà se mettre sous acide folique. Donc, il faut prendre de l'acide folique avant de tomber enceinte jusqu'au 3e mois après la conception. Mais le problème que nous avons, c'est que généralement, cette maladie atteint des femmes de situations assez précaires. En tout cas, par expérience, les familles où naissent les spina bifida sont pour la majorité des gens où les moyens sont un peu limités et tout. Ce sont généralement des femmes pas très instruites qui ne savent pas quand est-ce qu'elles tombent exactement enceintes. Alors là, c'est un problème parce que puisque la prise de l'acide folique doit venir avant la conception, on ne sait pas quand est-ce qu'il faut les mettre sous acide folique. Alors, la solution la plus durable sur laquelle nous sommes en train de penser, c'est peut-être d'incorporer au fait de l'acide folique dans l'alimentation normale d'une femme pour que ce soit déjà pris de façon préventive que d'attendre qu'elle planifie de concevoir et de lui mettre sous acide folique, ça sera un peu difficile. Autant on a instauré le sel iodé dans l'alimentation, autant j'aimerais qu'on instaure aussi de l'acide folique dans une nourriture qui se prend systématiquement en Afrique et comme ça, je pense qu'on va vraiment nous aider par rapport à spina bifida.
Et c'est avec ces explications du docteur Aurélie Chambo de l'ONG Spina Bifida Action Belgo-Africa que prend fin ce magazine Santé. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous.